Vous êtes un sadique ?
Je suis un dominant.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Que je veux que vous vous soumettiez volontairement à moi.
Pourquoi je ferais une chose pareille ?
Pour me faire plaisir.
Sade était-il partisan de l'inégalité entre les sexes ? Jugez plutôt. Je dis que les femmes, écrit-il, ayant reçu des penchants bien plus violents que nous au plaisir de la luxure, pourront se livrer, tant qu'elles le voudront, absolument dégagées de tous les liens de l'hymen, de tous les faux préjugés de la pudeur, absolument rendues à l'état de nature. Je veux que la jouissance de tous les sexes et de toutes les parties de leur corps leur soit permise comme aux hommes. Cette jouissance est évidemment permise à toute l'équipe des Nouveaux Chemins, Lucie Tardy, Colomba Grossi, Marianne Chassor et notre représentant du sexe fort, Antoine Ravon, à la réalisation cette semaine Midia Portis-Guérin, accompagnée aujourd'hui d'Élise Leu à la prise de son, et celle que vous retrouvez tous les jours, c'est-à-dire aujourd'hui inclus à 10h51 pour ces 2 minutes papillon, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Que peut-on tirer de la série Game of Thrones ? Eh bien quelques leçons politiques parues au post-édition et dirigées par Pablo Iglesias.
Éloge de l'inégalité, deuxième temps. Après le philosophe Patrick Savidan qui hier est venu se demander si nous souhaitions vraiment l'égalité. Avant Frédéric Regard qui plongera le sien dans 1984 de George Orwell demain. Et Jean Gaillon qui réfléchira sur la loi du plus fort dans le darwinisme jeudi. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Christophe Abramovici, professeur à l'université de Paris-Sorbonne. Et qui vient vous proposer aujourd'hui un cours de philosophie dans le boudoir en compagnie du marquis de Sade. Dans le fait, j'aime les femmes, moi, et je ne me livre à ces goûts bizarres que quand un homme aimable m'empresse. Il n'y a rien que je ne fasse alors. Je suis loin de cette morgue ridicule qui fait croire à nos jeunes freluquets qu'il faut répondre par des coups de canne à de semblables propositions. L'homme est-il maître de ses goûts ? Il faut plaindre ceux qui en ont de singuliers, mais ne les insulter jamais. Leur tort est celui de la nature. Ils n'étaient pas plus les maîtres d'arriver au monde avec des goûts différents que nous ne le sommes de naître bancal ou bien fait. Un homme vous dit-il d'ailleurs une chose désagréable en vous témoignant le désir qu'il a de jouir de vous. Non, sans doute, c'est un compliment qu'il vous fait. Pourquoi donc y répondre par des injures ou des insultes ? Il n'y a que les sots qui puissent penser ainsi. Jamais un homme raisonnable ne parlera de cette manière différemment que je ne fais. Mais c'est que le monde est peuplé de plats imbéciles qui croient que c'est leur manquer que de leur avouer qu'on les trouve propres à des plaisirs et qui, gâtés par les femmes, toujours jalouses de ce qui a l'air d'attenter à leurs droits, s'imaginent être les Don Quichotte de ces droits ordinaires en brutalisant ceux qui n'en reconnaissent pas toute l'étendue. Bonjour Jean-Christophe Abramovici.
Bonjour.
Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance. Je l'ai dit, vous êtes professeur à l'université de Paris-Sorbonne et l'auteur d'un ouvrage intitulé « Encre de sang, Sade écrivain » paru chez Classique Garnier en 2013. On vous doit également la présentation et l'édition de « La philosophie dans le boudoir » en Garnier Flammarion, texte qui va nous occuper aujourd'hui, dont je viens de lire un extrait. J'ai choisi cet extrait en particulier parce que, voilà, on pourrait présenter la philosophie dans le boudoir de manière classique, hein, c'est-à-dire c'est une série de 7 dialogues qui retracent l'éducation érotique et sexuelle d'une jeune fille de 15 ans. Et pourtant, dès la première page, on trouve ceci, ce texte que je viens de lire, le discours du chevalier de Mirvel sur l'homosexualité.
Oui, vous avez choisi un texte tout à fait passionnant et qui montre ce qui va être un petit peu la constante de ce texte. C'est-à-dire l'ambiguïté. Dans la citation que vous venez de nous lire, le chevalier de Mirvel défend, alors c'est pour présenter l'instituteur principal, celui qui va être le héros, qui va mener l'éducation de génie, Dolmansé. Et Dolmansé est homosexuel. Et le chevalier de Mirvel, dans la citation que vous venez de nous lire, fait un éloge de l'homosexualité. Enfin, soyons un peu plus précis, il s'en prend à ce qu'il appelle les Don Quichotte des goûts ordinaires, ceux qui se permettent de donner des coups de canne aux homosexuels, ce qui est très intéressant puisque c'est un texte écrit en 1795, donc le règne de la nouvelle culture bourgeoise s'est institué. Ça révèle qu'il y a quand même, justement, par rapport à la bougrerie, une homophobie ambiante. Il ne faut pas oublier que la bougrerie, c'est-à-dire le fait de d'avoir des mœurs de sodomite, était associée aux ci-devant aristocrates. Donc, dans l'imaginaire sexuel des révolutionnaires, n'est bon qu'une hétérosexualité triomphante. Mirvel, donc, s'oppose à ceux qui donnent des coups de canne aux homosexuels. Ceux qui ne sont pas encore appelés comme tels à l'époque, hein, c'est des sodomites. Mais en même temps, il dit à la fois accepter toute proposition, mais il qualifie ses goûts de bizarres et singuliers. Ce qui est déjà l'annonce du destin qu'il va connaître dans le texte. Le chevalier de Mirvel va finalement être éjecté de la scène parce que finalement un libertin au petit pied, un homme raisonnable, certes tolérant par rapport à des goûts, mais établissant quand même lui-même une hiérarchie entre les goûts naturels et il a beau dire on arrive bien fait ou contrefait sur la nature, il sous-entend que l'homosexuel est contrefait. Il n'est pas normal. Et il refusera d'aller vers les scènes violentes sur lesquelles se termine ce roman. Et c'est ce qui fait qu'il va très vite baisser d'un cran et finalement ne plus avoir droit à rester dans le dialogue.
Vous parlez de la hiérarchie des goûts naturels et en effet, c'est exactement comme cela que se pose la question au sein de ce texte, des goûts et des statuts, homme-femme, homme-homme, les goûts de le statut de la jouissance pour respectivement les hommes et les femmes. Dans tous les cas, et c'est en ce sens qu'il faut comprendre le titre « La philosophie dans le boudoir » au sens fort, il y a une philosophie de Sade présente dans ce texte, même si elle est compliquée à élucider. Les goûts sont indexés sur la nature, et c'est parce que c'est la nature elle-même qui est normative que Sade peut jouer avec cette hiérarchie, puisque la nature ne présente pas d'elle-même une hiérarchie. Il y a cette espèce d'anarchie, de chaos, qui fait que l'homme peut, avec la libido de la nature, jouer avec les normes qui sont celles de la société.
Oui, tout à fait. La nature est un terme absolument clé de la philosophie de Sade. Il ne faut pas oublier, c'est un homme qui a grandi, il appartient aux secondes lumières, il est né en 1740, mais il a été nourri toute sa vie des textes qu'on appelle manuscrits philosophiques clandestins, qui sont des textes qui ont remis en cause tout l'imaginaire chrétien qui était prédominant à l'époque et qui substitue à Dieu, créateur de toutes choses, la nature. Sade reprend un très grand nombre de ses textes, croit véritablement en cette force de la nature, mais a un rapport tout à fait ambivalent à cette nature, qui à la fois pour lui détermine effectivement dans le monde des forts et des faibles, et l'inégalité sexuelle sur laquelle sans doute nous reviendrons est basée sur ces commandements de la nature, mais ambiguïté puisque les plus violents des libertins sadiens en finissent toujours par exécrer la nature, puisque la nature est l'indépassable. On peut attaquer les hommes, Dieu, qui n'existe pas, la Terre, mais la nature reste toujours
la plus forte.
Reste toujours la plus forte, et y compris la violence que l'on ressent et que l'on exécute n'est que prédestinée, enfin précommandée par justement les instincts que l'on reçoit en naissant. Et dernier point, si cette nature, Sade y croit et en même temps a un rapport très ambivalent à elle, c'est que c'est aussi quelqu'un qui n'a cessé de souffrir dans son propre corps. On sait qu'il sexuellement a toujours eu des problèmes d'éjaculation liés à sans doute une vérole mal soignée. Et qui faisait que, sans doute, il y avait peut-être des caillots qui le rendaient toute jouissance extrêmement douloureuse. Et voilà, c'était un mot naturel et qu'il estimait parfaitement injuste. Et quelque part, toute la violence réelle associée à son imaginaire émane un petit peu de cette injustice qu'il ressentait très violemment dans son propre corps.
Et il ne cesse de proposer des remèdes à cette injustice qui prennent la forme soit d'une vengeance extrêmement violente envers le sexe en général, hein, homme ou femme, soit, et c'est le cas dans le texte qu'on va entendre à présent, dans une espèce de proposition de régulation des injustices sociales. Alors cette fois, si on n'est pas dans le registre, disons, sexuel, on entendra des textes un peu plus affriolants par la suite, peut-être. Mais là, cette fois-ci, il s'agit d'un extrait de français, encore un effort, si vous voulez être républicain. Tout d'un coup, Sade semble intervenir lui-même dans ce dialogue qui, jusque-là, mettait en scène d'autres personnages, pour exprimer son point de vue sur le vol qui, dit-il, devrait être autorisé. Écoutez.
Si nous parcourons l'Antiquité, nous verrons le vol permis, récompensé dans toutes les républiques de la Grèce. Sparte et Lacédémone le favorisaient ouvertement. Quelques autres peuples l'ont regardé comme une vertu guerrière. Il est certain qu'il entretient le courage, la force, l'adresse, toutes les vertus en un mot utiles à un gouvernement républicain et, par conséquent, au nôtre. J'oserais demander sans partialité maintenant si le vol dont l'effet est d'égaliser les richesses est un grand mal dans un gouvernement dont le but est l'égalité. Non, sans doute, car s'il entretient l'égalité d'un côté, de l'autre, il rend plus exact à conserver son bien. Il y avait un peuple qui punissait non pas le voleur, mais celui qui s'était laissé voler, afin de lui apprendre à soigner ses propriétés. Ceci nous amène à des réflexions plus étendues. À Dieu ne plaise que je veuille attaquer ou détruire ici le serment du respect des propriétés que vient de prononcer la nation, mais me permettra-t-on quelques idées sur l'injustice de ce serment? Quel est l'esprit d'un serment prononcé par tous les individus d'une nation? N'est-il pas de maintenir une parfaite égalité parmi les citoyens? De les soumettre tous également à la loi protectrice des propriétés de tous? Or, je vous demande maintenant si elle est bien juste, la loi qui ordonne à celui qui n'a rien de respecter celui qui a tout.
Le vol pour égaliser les richesses, le viol pour exercer sa domination, et pourtant, Sade n'a rien de ce personnage absolument anarchique et extrêmement chaotique dans le contexte politique et celui dans lequel il écrit ce texte, Jean-Christophe Abramovici.
Voilà, les éléments d'anarchie vont apparaître progressivement dans ce pamphlet. Alors, le pamphlet français, encore un effort, c'est, donc citons le texte, un extrait encore de la philosophie dans le boudoir. À un moment, l'éducation d'Eugénie, donc une éducation essentiellement sexuelle et morale, comment convient-il de se comporter dans la société, est interrompue. C'est à propos de la situation de la religion qu'il dit « Ah, mais justement, j'ai acheté une brochure ce matin. » Alors, Sade est très aimable avec vous puisqu'il fait un clin d'œil au thème de l'émission. Il achète la brochure au Palais Égalité, qui est le palais du duc d'Orléans et qu'on appelait « Citoyen Égalité ». Et cette brochure est un texte politique tout à fait étonnant qui montre que Sade est tout à fait un acteur réel de la révolution en 1795. On reviendra peut-être sur les actions qu'il a eues. Et parmi les thèmes qu'il aborde, il y a cette question du vol. Alors le vol, c'est pas la première fois qu'il en parle. Hein. C'est une constante, là aussi, dans son imaginaire. Les auditeurs connaissent, associent sans doute le nom de Sade à Justine, hein, qui est la saga qu'il a écrite tout au long de sa vie, qui connaît plusieurs versions. Et dans donc l'histoire de Justine, il y a la rencontre avec le personnage de la Dubois. La Dubois est une voleuse. Et la Dubois est rencontrée au début du roman et à la fin. Au début du roman, c'est une pauvre. Hein, les voleurs, la troupe de voleurs qu'elle dirige vivote hein, et accueille Justine pendant quelques temps. Et elle va retrouver la même Dubois à la fin du roman, extrêmement riche et qui a justement réussi à mettre en application sa philosophie. Le vol est justifié quand il y a quelque part une injustice sociale, dans le sens où naturellement on est un personnage fort, mais par un hasard, comme on n'est pas fort de longue date, donc on est pauvre, mais le vol permet de rétablir la balance et donc d'accéder au même niveau que les plus riches, qui eux sont dont l'aristocratie où l'argent marquait, signait la richesse. Donc c'est une constante, ce thème. Ce qui est tout à fait passionnant dans la citation que l'on vient d'entendre, c'est que Sade la reprend, comme vous le dites, dans un contexte politique. Et bien évidemment, ici, il adresse un discours très ironique à l'égard des nouveaux chefs, des nouveaux révolutionnaires. Il leur fait entendre une petite musique rousseauiste. Rousseau qui était la référence majeure. On se réclame de Rousseau, mais on ne va pas jusqu'à remettre en cause la propriété.
Oui, il écrit ceci, hein, je vous demande maintenant si elle est bien juste la loi qui ordonne à celui qui n'a rien de respecter celui qui a tout. Et c'est là où c'est intéressant, parce que finalement il a l'air de brandir la nature comme norme absolue pour défaire la société, et pourtant les normes que lui-même, les valeurs que lui-même véhicule parce qu'il y en a, celles justement d'une forme d'égalité et de justice, sont proprement culturelles, n'ont rien de naturel.
Oui, tout à fait. Elles sont entièrement culturelles et Sade a un rapport justement très très ironique par rapport à Rousseau. Rousseau, lui, se projette véritablement, reconstruit un état de nature, imagine vraiment une société telle qu'elle aurait dû être si elle avait suivi les voies de la nature. Sade, à la fois, se réclame de la nature et en même temps assume entièrement le domaine la société, la construction civilisationnelle dans laquelle il grandit. C'est un aristocrate déchu, c'est quelqu'un qui trouve que une société d'ordre absolument inégalitaire était une bonne société, d'une part parce qu'il était du bon côté du manche, si j'ose dire, et en même temps parce que cette hiérarchie sociale reproduisait, selon lui, justement, différents degrés de force dans la nature. Hein. Preuve en est, c'est que les aristocrates étaient en même temps supposés être tous des chefs guerriers. Hein, et donc leur force physique se traduisait par le rang qu'ils occupaient dans la société. Donc, Sade, en rappelant aux révolutionnaires qu'ils sont finalement de mauvais lecteurs de Rousseau, en appelle à effectivement une réflexion sur le respect de la propriété, qui montre bien que ce qui se construit, c'est pas une société vraiment démocratique, mais une société tout à fait bourgeoise, où simplement la hiérarchie se déplace de l'aristocratie vers la haute bourgeoisie.
Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que Sade, en se moquant des révolutionnaires qui ont le pouvoir au moment où il écrit ce texte, essaye de proposer une hypothèse alternative qui serait celle de rétablissement d'une forme d'aristocratie, parce que les choses sont beaucoup plus compliquées que cela.
Oui, non, il n'a absolument jamais cru à ce rétablissement. Il ne l'a pas du tout appelé de ses voeux, au risque d'égratigner un petit peu Michel Onfray, qui, dans les 10 derniers discours qu'il a, ou livres qu'il a pu proposer de Sade, Ned le ramène à une féodalité qu'il aurait toujours violemment défendue. Certes, il regrette ce temps passé, mais où les aristocrates, le pouvoir des aristocrates n'était pas contesté, mais il faut pas oublier que ce temps, il ne l'a jamais connu. Il a grandi dans une période où l'aristocratie ne cessait de voir ses privilèges rognés, et il en est tout à fait lucide. Et je vous lirai juste une toute petite note dans l'histoire de Juliette qui montre tout à fait le point de vue qu'il a par rapport aux événements révolutionnaires. C'est une note qui dit « L'égalité prescrite par la Révolution n'est que la vengeance du faible sur le fort. C'est ce qui se faisait autrefois en sens inverse. Mais cette réaction est juste. Il faut que chacun ait son tour. Tout variera encore, parce que rien n'est stable dans la nature et que les gouvernements dirigés par des hommes doivent être mobiles comme eux. » Donc, Sade sait parfaitement que... il désapprouve complètement ce pouvoir pris par le peuple, mais... Voilà, au nom d'une vision un petit peu cyclique de l'histoire, il trouve qu'il est tout à fait normal que la roue tourne et que les faibles d'autrefois deviennent, au moins pour un temps, les forts. Et il sait parfaitement que si peut-être un jour les forts d'antan, les aristocrates, ce qui se produira d'ailleurs avec certaines restaurations au XIXe, reprendront le pouvoir, lui ne le connaîtra pas, et c'est pour ça qu'il n'est absolument pas devenu un contre-révolutionnaire.
Que désire-t-on quand on jouit ? Que tout ce qui nous entoure ne s'occupe que de nous, ne pense qu'à nous, ne soigne que nous. Si les objets qui nous servent jouissent, les voilà dès lors bien plus sûrement occupés d'eux que de nous, et notre jouissance conséquemment dérangée. Il n'est point d'homme qui ne veuille être despote quand il bande. Il semble qu'il a moins de plaisir si les autres paraissent en prendre autant que lui. Par un mouvement d'orgueil bien naturel en ce moment, il voudrait être le seul au monde qui fût susceptible d'éprouver ce qu'il sente. L'idée de voir un autre jouir comme lui le ramène à une sorte d'égalité qui nuit aux attraits indicibles que fait éprouver le despotisme, alors. Il est faux, d'ailleurs, qu'il y ait du plaisir à en donner aux autres. C'est les servir, cela. Et l'homme qui bande est loin du désir d'être utile aux autres. En faisant du mal, au contraire, il éprouve tous les charmes que goûte un individu nerveux à faire usage de ses forces. Il domine, alors il est tyran, et quelle différence pour l'amour-propre. Ne croyons point qu'il se taise en ce cas. L'acte de la jouissance est une passion qui, j'en conviens, subordonne à elle tous les autres, mais qui les réunit en même temps. Si l'intention de la nature n'était pas que l'homme eût cette supériorité, elle n'aurait pas créé plus faible que lui les êtres qu'elle lui destine dans ce moment-là. Cette débilité où la nature condamna les femmes prouve incontestablement que son intention est que l'homme, qui jouit plus que jamais alors de sa puissance, l'exerce par toutes les violences que bon lui semblera, par des supplices même s'il le veut.
Il y a en somme deux despotismes. Il y a ce despotisme institué, ce despotisme qui résulte de la civilisation, de l'existence d'une société politique. Et pour Sade, ce despotisme est abject, car faire du prince une idole, c'est cela l'abjection. Mais d'un autre côté, que l'individu reconnaisse son propre despotisme et sa propre abjection, du moins, cela est-il tout différent parce que, précisément, il ne se laisse pas leurrer. Il échappe à l'idolâtrie. Le prince est une idole. D'une certaine manière, celui qui le sert ne sait pas qu'il sert le despotisme. Tandis que celui qui n'a qu'à affaire qu'à soi-même, il est mis face à son propre abîme.
Explication de texte par Claude Lefort. C'était une émission sur la philosophie dans le boudoir, dans les chemins de la connaissance. C'était en 1990, Jean-Christophe Abramovici. Alors c'est extrêmement clair, effectivement, ces deux despotismes, ça permet d'éclairer, oui, le texte que l'on vient d'entendre sur l'homme qui, lorsqu'il jouit, se fait despote de lui-même, comme s'il renouait par, dans et par la jouissance avec la partie la plus naturelle de lui, c'est-à-dire la partie la plus égoïste, la plus finalement asociale de lui.
Oui, Sade présente une image effectivement de la jouissance sexuelle qui est favorable aux hommes, mais qui voilà conduit tout un chacun, lecteur de la philosophie dans le boudoir, à s'interroger sur ses propres sensations, interroger aussi des lieux communs sur le partage, sur la délicatesse. Sade effectivement invite son lecteur à interroger ses propres sensations, en particulier dans l'acte sexuel. Alors il ne faut pas oublier non plus que la personne qui parle, c'est Dolmansé, hein, c'est un extrait, celui qu'on vient d'entendre, qui, c'est intéressant, suit la lecture du pamphlet « Français, encore un effort ». On est à la fin du texte.
Cinquième
dialogue. Ça devient de plus en plus violent et va arriver bientôt la mère d'Eugénie qui sera particulièrement maltraitée. Donc dans le commentaire de Claude Lefort qu'on a entendu après, on a effectivement une opposition tout à fait valable, et bon, c'est une interprétation en rajoutant l'idée d'idole, mais que je comprends et que je trouve assez justifié. Donc d'un côté un despotisme civilisationnel abject, et de l'autre côté un despotisme personnel qui serait positif. Je rajoute simplement que Sade s'amuse bien sûr de ces parentés que permettent la langue. Et il y a une note dans la philosophie dans le boudoir à la citation que l'on a entendue, quand il emploie le mot despotisme. La pauvreté de la langue française nous contraint à employer des mots que notre heureux gouvernement réprouve aujourd'hui avec tant de raison. Nous espérons que nos lecteurs éclairés nous entendront et ne confondront point l'absurde despotisme politique avec le très luxurieux despotisme des passions du libertinage. Alors, je pense que Claude Lefort, en fait, part de cette note pour justement insister sur ces deux despotismes, mais ce qui est intéressant, c'est que au travers de cette note, bien sûr avec ironique, un peu tongue in cheek comme disent les Anglais, un autre heureux gouvernement, il se moque d'eux, il met là aussi les lecteurs en face, les lecteurs contemporains en face du terrorisme qui est celui du nouveau pouvoir. Hein. Sade vient juste d'échapper à la terreur. Hein. Il a failli être guillotiné comme un grand nombre d'adversaires de Robespierre. Et c'était un temps, il faut s'en souvenir, où on risquait sa vie pour en avoir employé un mot. Et risquer là d'employer le terme despotisme dans un sens positif, dès lors qu'il est appliqué à l'homme qui jouit, c'était effectivement prendre un risque, même si Thermidor était terminé, on était sorti de la terreur. Mais Sade, est toujours quelqu'un de très conscient de la valeur des mots et surtout de l'ambiance culturelle langagière dans laquelle il écrit.
Mes passions, dites-vous, mes amis, vous donnent une assez mauvaise opinion de ma façon de penser sur les femmes. Et certes, vous ne vous trompez pas lorsque vous vous persuadez que je les méprise autant que je les hais. Mais c'est principalement lorsque cette femme est liée à moi par les liens conjugaux que vous vous figurez que mon éloignement et mon antipathie doivent redoubler pour elle. Avant que d'entrer dans l'analyse de ces sentiments, il convient que je vous demande d'abord de quel droit vous prétendriez, par exemple, qu'un mari fût obligé de faire le bonheur de sa femme. Et quel titre ose alléguer cette femme pour l'exiger de son mari?
La nécessité de se rendre mutuellement heureux ne peut exister, vous en conviendrez, qu'entre deux êtres également pourvus de la faculté de se nuire, et par conséquent entre deux êtres d'une même force. Une telle association ne saurait avoir lieu qu'il ne se forme aussitôt un pacte entre ces deux êtres, de ne faire chacun vis-à-vis l'un de l'autre que la sorte d'usage de leur force qui ne peut nuire à aucun des deux. Mais cette ridicule convention ne saurait assurément exister entre l'être fort et l'être faible. De quel droit ce dernier exigera-t-il que l'autre le ménage? Et par quelle imbécilité le premier s'y engagerait-il? Je ne puis consentir à ne pas faire usage de mes forces avec celui qui peut se faire redouter par les siennes. Mais par quel motif en amoindrirais-je les effets avec l'être que m'a servi la nature? Me répondrez-vous, par pitié? Ce sentiment n'est compatible qu'avec l'être qui me ressemble. Et comme il est égoïste, son effet n'a lieu qu'aux conditions tacites que l'individu qui m'inspirera de la commisération en aura de même à mon égard.
Ne dis
rien,
surtout
pas.
Ne dis
rien,
suis-moi. Ne dis
rien,
n'aie pas
peur.
Ne crains
rien
de moi.
Suis-moi jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de ma folie. Laisse le temps,
oublie demain,
oublie tout, ne pense plus à rien.
Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, il est 10h32, c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à l'inégalité, et c'est de Sade que nous parlons aujourd'hui, de la philosophie dans le boudoir du Marquis de Sade, en compagnie de Jean-Christophe Abramovici, à qui l'on doit un ouvrage intitulé « Encre de sang, Sade écrivain » paru chez Classique Garnier en 2013, et également l'édition et la présentation de la philosophie dans le boudoir, en Gardier Flammarion.
Jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de ma folie. Laisse le temps, oublie demain, oublie tout, ne pense plus à rien. La la la. Folie. Laisse le temps, oublie demain, oublie tout, ne pense plus à rien.
Eh bien, suivons le Marquis de Sade jusqu'au bout de la nuit, en tout cas jusqu'au bout de ses raisonnements dont on vient d'entendre un autre extrait. Enfin, j'ai lu un extrait de la Nouvelle Justine où cette question est posée de front. De quel droit un mari est-il obligé de faire le bonheur de sa femme? Il faut quand même que je vous pose la question directement, Jean-Christophe Abramovici, puisque même dans le texte qu'on avait entendu avant, il était dit que si l'intention de la nature n'était pas que l'homme eût cette supériorité, elle n'aurait pas créé plus faible que lui pour en abuser. Qu'en est-il donc de cette soi-disant inégalité naturelle entre l'homme et la femme chez Sade?
Oui, il en est persuadé, et en même temps, là encore, je trouve que, si jamais je continue à m'intéresser à Sade, c'est que il n'est pas d'un bloc, et il n'a pas uniquement ce discours. Alors, le discours très violent que vous avez lu est tenu par le personnage de Gernande dans La Nouvelle Justine. Gernande, c'est véritablement le seigneur et maître de sa femme, puisque Gernande s'amuse à saigner avec un A sa femme qui en mourra, et le supplice de Madame de Gernande est une scène particulièrement cruelle de ce roman. Donc il y a, ça ne fait aucun doute, un certain systématisme dans les discours affirmant la supériorité de l'homme et le la domination et la torture presque naturelle qu'un mari pourrait être en droit de faire sur sa petite moitié. Et en même temps, il ne faut pas en rester là. D'abord, alors je sais que les études littéraires sont des études essentiellement féminines, donc il est normal qu'il y ait beaucoup de femmes qui surtout s'intéressent à la littérature. Mais je remarque que beaucoup de collègues que j'ai s'intéressent depuis des années à Sade. Je citerai Florence Lautry et
qu'on a reçu d'ailleurs ici.
Oui, que vous avez reçu. Et je cite également un volume qui a été dirigé par Anne Coudreuse et Stéphanie Genant récemment, consacré à Sade et les femmes. Et c'est tout à fait révélateur qu'un très grand nombre de spécialistes de Sade soient des femmes qui pourraient se sentir...
Mais ça, ce n'est pas un argument en faveur d'une forme d'égalité entre l'homme et la femme.
Absolument pas. Mais ça explique que ce sont des femmes qui ne sont pas absolument pas soumises, hein, des chercheuses absolument pas soumises, et qui ont reconnu qu'il y a un discours ambigu chez Sade. Preuve en est, alors là pour avoir de véritables
arguments...
Allez-y, oui,
arguments, là il vous faut des arguments quand même.
C'est que les deux principales héroïnes, mais dans tout le personnel romanesque de Sade, sont deux femmes. La Justine, que l'on présente toujours comme une pauvre imbécile, humiliée et violée pendant des centaines et des centaines de pages, mais ce faisant, on oublie que c'est un personnage extrêmement fort d'un point de vue du discours, qui n'a de cesse, peut-être de manière un petit peu naïve et imbécile, mais de vouloir convertir les libertins qu'elle rencontre, et qui a une force de caractère et un physique absolument formidable qui fait que elle se bat absolument sans arrêt. Et puis la grande autre héroïne, c'est Juliette, qui est une héroïne qui à la fois assume un discours de domination que tiennent généralement ses comparses masculins, mais qui fait jeu égal avec eux, à la fois se soumet, mais est le personnage dans la bouche duquel Sade met les éléments de sa poétique, de son éloge de l'imagination, et qui est un peu un idéal d'être justement qui incarnerait les valeurs de liberté qu'il défend.
Mais même, on trouve une réponse de Sade lui-même à la question que je vous ai posée, toujours dans ce cinquième dialogue de la philosophie dans le boudoir, où il semble prêter à un moment, donner la parole aux femmes. Il dit, voilà, nous, ces femmes que nous venons d'asservir si cruellement, nous devons incontestablement les dédommager. Alors, on ne sait pas au nom de quoi, mais quand même peut-être au nom de cette égalité, finalement, qui lui est plus chère qu'il ne l'admet. Il dit, si nous admettons, comme nous venons de le faire, que toutes les femmes doivent être soumises à nos désirs, assurément, nous pouvons leur permettre même de satisfaire amplement tous les leurs. Je dis donc que les femmes, ayant reçu des penchants bien plus violents que nous au plaisir de la luxure, pourront s'y livrer tant qu'elles le voudront, absolument dégagées de tous les liens de l'hymen, de tous les faux préjugés de la pudeur, absolument rendues à l'état de nature. Je veux que les lois leur permettent de se livrer à autant d'hommes que bon leur semblera. Je veux que la jouissance de tous les sexes et toutes les parties de leur corps leur soit permise comme aux hommes et sous la clause spéciale de se livrer d'eux-mêmes à tous ceux qui le désireront. Il faut qu'elles aient la liberté de jouir également de tous ceux qu'elles croiront dignes de les satisfaire. Et là, oui, ce sont les mêmes arguments qu'il avait brandis au nom de la jouissance masculine.
Exactement. Donc là, c'est un nouvel extrait de Français encore un effort. Donc, il y a égalité des droits. Alors, un petit peu quand même une égalité un peu biaisée, puisque elles ont droit, dans l'absolu, de jouir, mais on ne trouve pas de phrase qui dirait qu'elles aient le droit d'amener manu militari dans leur chambre des hommes pour...
Elles n'ont peut-être pas le droit d'exercer la domination.
Voilà, d'exercer la domination. Mmh. Alors que ce droit donc qu'il aurait reconnu de jouir absolument comme elles l'entendent est la contrepartie d'une soumission absolue et effective qu'elles doivent avoir aux hommes. Et là encore... C'est un discours qui est intéressant parce que il met les révolutionnaires, ses contemporains, devant leurs propres contradictions. À la fois, il assume entièrement cette valeur de la liberté qui est prônée et qui, bien évidemment, n'est pas poussé dans ses extrémités par les révolutionnaires. Et puis, c'est aussi faire une allusion assez maligne au destin effectif des femmes sous la Révolution, qui sont ont été d'année en année privées de droits, et au moment où Sade rédige la philosophie dans le boudoir, les clubs féminins ont été fermés, on a commencé déjà à mettre les femmes politiquement au pas, et l'on sait très bien que la révolution n'a pas été du tout un temps de libération des femmes, et qu'il leur faudra attendre 150 ans pour connaître une égalité civile et politique. Donc voilà, Sade, dans cette utopie un peu sexuelle, mais une utopie noire, hein, une utopie qui, puisque tout est permis, y compris le meurtre.
Oui, ça, puisque ça vient... la nature tue,
voilà,
le meurtre est permis.
Le meurtre est permis. Donc, à la fois autorisation du meurtre et autorisation et même glorification de relations non... dont ne résultera aucun fruit de la nature, homosexualité et autres. Et la conséquence de cette soi-disant utopie est une probable disparition de l'humanité, qui, à deux moments du dialogue, est tout à fait froidement envisagée.
Qui est souhaitée ?
Qui n'est pas souhaitée, mais qui serait effectivement la conséquence naturelle de ce à quoi aboutirait une société où tout serait permis. Mais il reste, là encore, Sade nous permet de réfléchir. On peut peut-être se demander quand même si dans la société ultra-libéralisée et inégalitaire dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où on sait très bien que les inégalités sociales ne cessent de croître et où les plus forts, les plus riches, à un niveau absolument international, qui ne peuvent pas être pris, qui sont absolument libres de tout faire, ne contribuent pas par leur mode de vie à cette destruction de la société et de la terre à laquelle nous assistons. Hein, donc
on pourrait lire les personnages de Sade, d'Olmancé, dont on a entendu un extrait, hein, qui se présentait comme en tant que jouisseur, en tant que même homme jouissant, comme un despote de lui-même, comme une manière de disons presque des symboles, des constructions littéraires pour mieux dénoncer ce qu'il se passe dans le monde dans lequel Sade vit, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a une espèce de provocation littéraire qui est au service d'un raisonnement quasiment politique.
Moi, il me semble. Alors, ne faisons pas dire à Sade plus qu'il le dit. Sade peut nous permettre, me semble-t-il, de réfléchir à notre époque. Il n'a pas du tout en tête ce que va devenir le monde, et il est simplement témoin d'une société qui où de nouveaux acteurs prennent le pouvoir, les bourgeois, et qui est en train de normer les comportements. Et ça, c'est cette société normative et qui est persuadée de faire le bien au nom d'une nature qu'elle ignore. Hein, n'oublie pas cette bête dont tu parles tout le temps sans la connaître, qui s'appelle la nature. Hein, c'est une petite citation des 120 journées de Sodome. Voilà, Sade exècre cette nouvelle société bourgeoise qui se réclame de la nature tout en la normant et instituant très hypocritement un certain nombre justement de hiérarchies dite naturelle. Alors ça il exècre cette société. Donc effectivement, Sade a un discours politique, mais par rapport à la société dont il est témoin. Et puis il y a un second, d'autres niveaux de lecture, tout ce que nous permet, tout ce à quoi nous permet de réfléchir les textes quand on les lit aujourd'hui.
Mais fait-il autre chose que lui-même réintroduire ces normes naturelles, ces normes qu'il considère comme justes parce qu'elles sont naturelles? Dans les extraits qu'on a entendus tout au cours de cette émission, il y a une forme quand même de naturalisation de l'homme et de la femme qui sont tous les deux jouisseurs. La femme jouit énormément, a d'ailleurs plus d'appétit à jouir que l'homme. C'est pour cela qu'il faut la laisser jouir de tout son soûl, même si elle ne peut pas dominer l'homme. Il reproduit cette même attitude normative en brandissant la nature comme étant la norme absolue.
La différence étant que les normes auxquelles finalement sont ramenées une certaine philosophie sadienne, c'est simplement le droit du plus fort. Hein, donc c'est vraiment une norme minimale. Toutes les autres découlent de ce droit. C'est une norme minimale et qui permet un très grand nombre de renversements. Mais encore une fois, il y a des effets de système dans les romans de Sade, au sens où les mêmes arguments reviennent et se retrouvent de libertin en libertin. Mais Sade n'a pas de credo philosophique absolu, c'est plus un écrivain qui a certaines convictions, hein, et, l'athéisme, voilà, il est absolument persuadé de l'inexistence de Dieu, ça... C'est un credo, il a d'ailleurs fait un poème qui s'appelle « La religion », il a fait quelques textes véritablement philosophiques. Tous les autres sont des romans dans lesquels il y a de la philosophie, et où Sade a un rapport distancé avec ses discours. Il ne faut pas les attribuer une somme d'opinions. Et preuve en est, c'est que c'est à chaque fois des personnages de fiction qui prononcent ces discours, et qui ont des intérêts à chaque fois particuliers. Le discours que vous nous avez lu tout à l'heure de Gernande, c'est parce que justement on est dans une situation particulière et avec un personnage qui est marié, chose que ne sont que très peu les libertins, et qui dit « oui, je suis marié, mais ma situation de mari me donne tous les droits et je vais pouvoir massacrer ma femme ». Et par ailleurs, on sait depuis des années que Sade ne cesse, dans ses dissertations, de réécrire les libertins, les philosophes matérialistes de son temps. Et toute cette marqueterie du texte de Sade montre que voilà, son premier plaisir à Sade, c'est de jouer avec les contradictions de ses contemporains et de tordre les arguments qui ont été émis les uns ou les autres.
Ce qui en fait sans doute, pour le coup, un philosophe à part entière, parce que ce jeu auquel il ne cesse de s'adonner, en jouant par exemple avec les registres, rien que dans la philosophie dans le boudoir, hein, cette mise en scène dans le boudoir comme une espèce de clin d'œil à Crébillon, hein, vous voyez, cette espèce de d'ambiance très feutrée et érotique qui se cache ou qui s'assume complètement chez Sade, et ponctuée comme ça, traversée par des moments extrêmement, beaucoup plus théoriques, on l'a dit, le cas de Français encore un effort, et ce jeu-là fait que sans aucun didactisme, puisqu'il est sans arrêt en train de parodier à l'excès les figures auxquelles il veut accorder son crédit, eh bien, permet de former quand même une forme, de proposer une forme de message ou de pensée qui se tient. Et c'est en ça qu'il y a vraiment une philosophie dans le boudoir.
Il y a une philosophie dans le boudoir, alors peut-être parce que je suis littéraire, mais ce qui me semble aussi très frappant et très passionnant avec cet écrivain, c'est que c'est un écrivain qui ne cesse de nous obliger à nous interroger, nous lecteurs, par rapport à notre place dans la fiction. Et ce qui est très étonnant dans les œuvres de Sade, c'est que le lecteur n'a pas la même place selon le texte. Il a exactement la place que lui réserve Sade. Et ce qui va faire qu'un texte comme La philosophie dans le boudoir est un texte effectivement très éprouvant à lire, parce que le lecteur y occupe une place de dominé, et que ce n'est pas le cas dans des textes tout aussi violents, mettant en scène des massacres absolument aussi cruels, comme La Nouvelle Justine ou L'Histoire de Juliette, mais où le lecteur arrive à lire et se surprend à sourire de scènes absolument terribles. Et ces constructions littéraires sont absolument étonnantes à observer.
Thank you.
Merci Jean-Christophe Abramovici d'être venu nous parler de Sade aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre livre « Encre de sang, Sade écrivain » aux éditions Classique Garnier et « La philosophie dans le boudoir ». Chers auditeurs, jetez-vous sur ce livre et plongez-vous dedans avec votre présentation Jean-Christophe Abramovici, disponible en Garnier Flammarion. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoy.
Pourquoi écrire un livre sur Game of Thrones? Mais oui, dans la situation d'urgence sociale où nous nous trouvons, n'est-ce pas une perte de temps? En ouvrant son ouvrage sur les leçons politiques de Game of Thrones avec ces mêmes questions, le porte-parole du parti espagnol Podemos, Pablo Iglesias, ne minimise pas son projet, mais trouve en fait le moyen de légitimer sa propre entreprise, à savoir éclairer la situation politique européenne actuelle à partir d'une série fantastique où le sexe et la violence rythment les saisons et où surtout la notion d'État telle qu'on la connaît depuis l'époque moderne n'existe pas du tout. Alors cette légitimité se fonde, je cite, sur un lien direct avec le pessimisme généralisé et une conscience latente de la fin de la civilisation occidentale. Mais aussi sur quelque chose de plus précis. La série, parce qu'elle met littéralement en scène la dispute pour le pouvoir, à travers les territoires sans cesse déconstruits et les migrations sans fin des personnages, fait écho à notre crise qui, elle aussi, laisse en suspens l'identité des protagonistes et d'une résolution politique.
So long as I'm your king, treason shall never go unpunished. Sir Ilyn, bring me his head.
La mort de Ned Stark, et oui je le dis, à la fin de la première saison, témoigne de cette mise en suspens d'une quelconque résolution. On misait tout sur lui, et puis il se fait couper la tête. Mais il le méritait bien, comme on le lit dans un autre article, parce qu'il était mu par son intégrité morale plus que par le bien commun de la collectivité. Tout simplement parce qu'au jeu du pouvoir, il ne sert à rien d'être bon en soi, en étant au-dessus de la mêlée politique. Parce qu'au jeu du trône de fer, se joue précisément la réalité du chaos politique, sans instance morale surplombante, mais dans la consistance même du conflit. Alors il y a certes un écart entre cette série et aujourd'hui, mais il y a au moins cette manière dans cet ouvrage, cette manière presque analytique de mettre en scène le concret de chaque choix politique et d'essayer d'en tirer une éthique.
C'est donc le porte-parole du parti espagnol Pablo Iglesias qui écrit
exactement,
ce livre.
Exactement, et qui l'a dirigé. C'est un ouvrage collectif, ça s'appelle « Les leçons politiques de Game of Thrones » et c'est paru au Post-édition.
Merci Géraldine. Et merci à tous, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à l'inégalité. Demain, ce sera le prof Frédéric Regard qui viendra vous parler de 1984 de George Orwell, 1984 ou le cauchemar de l'uniformité. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des nouveaux chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales et vous pourrez aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des Nouveaux Chemins vous donne également rendez-vous sur Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour, et attendons vos remarques et commentaires.